Vous êtes sur RTL.
Agnès Bonfillon. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, puisqu'à partir de 13h, comme tous les jours, vous le savez, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce lundi 15 août. Sur le front des incendies, en répit venu du ciel, la pluie a aidé les pompiers, mais la vigilance reste maximale. Est-il possible d'anticiper les prochains événements climatiques comme les inondations? Si oui, de quelle façon? Nous en parlerons avec notre invité. Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, c'était il y a un an, jour pour jour. Depuis, les femmes n'ont plus aucune liberté, vous l'entendrez. Nous parlerons également de Kylian Mbappé, qui samedi s'est montré plutôt renfrogné sur le terrain. Une guerre des égos couvre-t-elle au PSG. Et puis la météo, c'est avec vous. Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Encore un peu de pluie vers le nord cet après-midi, le nord-est.
Exactement, que ce soit vers le centre Val de Loire, en direction de la région Grand Est, en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté, les Hauts-de-France, ça sera un ciel couvert avec localement une bonne averse accompagnée d'un orage que l'on retrouvera aussi vers les Pyrénées, Alpes du Sud et Montagnes Corses. Partout ailleurs, un temps beaucoup plus calme, mais certes nuageux, avec des températures comprises entre 24 et 28 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 33 degrés pour le sud-est.
Merci Claire, et à tout à l'heure. 135 euros pour laisser votre moteur de voiture tourner à l'arrêt, c'est désormais possible à Nancy. Et la question du jour, justement, concerne cet arrêté. Faut-il sanctionner ces véhicules qui continuent de tourner à l'arrêt? Vous répondez oui à 49%, non à 39%.
RTL Midi.
Sur le front des incendies, seul un feu n'est toujours pas fixé ce lundi, près de Caudiès de Fenouillède, dans les Pyrénées-Orientales. 400 pompiers restent mobilisés à l'heure où nous parlons. Ailleurs, que ce soit en Bretagne, dans le Jura, en Lozère, mais aussi évidemment en Gironde, près de Landiras, ça y est, il y a un vrai soulagement. À Belin-Bélier, commune très touchée par les flammes ces derniers jours, Juliette Chaignon, les habitants commencent à rentrer chez eux et refaire le plein dans les supermarchés.
Oui, c'est ça. Sur le parking du supermarché, je croise Charlotte. Elle a pu rentrer chez elle hier soir et ce matin, c'est mission course.
Re-remplir quelques frigos quand même, parce qu'on n'a plus rien à manger, puisque coupure d'électricité, donc tout est qui est mort à l'intérieur.
Chez elle, tout se remet en place peu à peu.
On n'a pas d'électricité, très très peu d'eau, puisque les pompiers puissent dessus. On a un groupe électrogène qui fait qu'on peut avoir un peu de lumière, mais pas des masses.
L'objectif aujourd'hui, ce sera aussi de reprendre ses marques.
Pour les enfants déjà, il faut absolument trouver une occupation. Voir tout ça, ça les rend déjà en panique. Essayer de reprendre une vie normale, solidaire avec tout le monde, puisque il y en a qui ont perdu leur maison.
Mais pour Charlotte et sa famille, difficile de faire retomber la pression.
Le feu était à mon grillage, ouvrir les portails, les pompiers qui rentrent, éteignent le feu. C'était horrible. Il y a une partie de nous au fond qui dit c'est sûrement pas encore terminé tant que les pompiers seront encore sur place.
Au moins, il y a la pluie et ça donne le sourire à Charlotte.
J'ai jamais été aussi heureuse qu'il pleuve au mois de juillet août.
Après les courses, ce sera nettoyage, car dans beaucoup de jardins ici, il y a des cendres et des écorces de pin carbonisées qui sont tombées.
Juliette Chaignon en direct pour RTL en Gironde. Après plusieurs épisodes de canicule, c'est paradoxal, mais désormais, on craint les inondations. Météo France a placé hier en vigilance orange aux orages 8 départements. Et nous sommes en ligne avec Patrick Chavada. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes membre de la commission prévention de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Avant de parler de cette nouvelle crainte, d'abord, dites-nous quel est l'état d'esprit des pompiers qui ont été sur le front ces derniers jours. L'état de fatigue doit être intense.
Oui, moi je rentre juste aujourd'hui de 48 heures d'intervention sur les feux de forêt dans la Lozère. Effectivement, on travaille sur ces feux de forêt dans des conditions qui sont particulièrement difficiles avec la chaleur, la canicule, la fatigue. Il faut être absolument vigilant puisque l'état de sécheresse fait que maintenant on a des niveaux d'humus qui sont relativement importants, ce qui nous fait travailler pratiquement avec des râteaux riches ou des râteaux pour gratter pour que les feux ne reprennent pas. Donc c'est vrai que les personnels étaient très très sollicités, mais les sapeurs-pompiers sont là pour la population et répondent toujours présents à la sollicitation des autorités.
Vigilance maximale donc concernant les incendies, elle reste là. En revanche, on parle déjà d'inondations, de risques d'inondations. D'abord, est-ce que c'est courant, après des étés aussi chauds que celui que l'on vit actuellement, là, d'assister à des épisodes de pluie intense?
On a toujours eu des épisodes de pluie intenses en fin de saison, parce qu'effectivement, une fois que l'air chaud vient en contraste avec des masses froides, effectivement, il se produit des orages violents avec des inondations qui étaient, jusqu'à quelques années en arrière, relativement restreints. Et on s'aperçoit, alors, avec le changement climatique, avec là, on regarde les océans, la Méditerranée, qui sont anormalement chaudes, on sait qu'il va y avoir des phénomènes météorologiques, notamment d'orages violents, stationnaires, qui peuvent se produire dans les régions qui sont concernées. On pense notamment à la région de Nîmes avec les épisodes Cévenol. Donc on sait que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va avoir affaire à ce type de catastrophe climatique. Et donc nous, les sapeurs-pompiers, on va passer de la période de ce qu'on appelle le feu de forêt à la période des inondations. Nos équipes sont prêtes, nos spécialistes sont prêts. On commence à travailler justement pour mettre en œuvre tous les plans d'intervention pour justement qu'on puisse répondre à ce nouveau risque climatique, puisque nous, les sapeurs-pompiers, on intervient aussi bien au quotidien, mais on est également là pour les risques climatiques, technologiques et industriels.
Ce que vous nous dites, Patrick Chavada, c'est qu'il est possible d'anticiper.
Oui, alors on a un réseau Météo France qui est très performant suite à la catastrophe de 92 à Vaison-la-Romaine qui, je rappelle, avait fait 47 morts et 4 disparus. Météo France a pu mettre en place au niveau national des radars spécifiques qui analysent en permanence les masses nuageuses et peuvent déterminer pratiquement au kilomètre près où peuvent se situer, avec des réseaux d'information des préfectures, des mairies pour rapidement prévenir la population. Donc on a un réseau qui est performant. Là où le maillon est un petit peu faible, je dirais, c'est le maillon au niveau de la population, où effectivement, il faut que collectivement et individuellement, parce qu'on doit être acteur de sa propre sécurité, on doit savoir où on habite, quels sont les risques qui sont inhérents à notre habitation. Est-ce que je suis en zone inondable? Est-ce que je suis en zone feu de forêt? Est-ce que je suis en zone sismique? Ça, c'est facile à voir parce que les municipalités, avec ce qu'on appelle le DICRIM, le document qui recense les risques majeurs de la commune, on peut savoir sur quel risque on peut être soumis. Et effectivement, en fonction du risque qu'on est soumis, et on parle des inondations, ben les personnes qui sont soumises à ce risque d'inondation doivent connaître, premièrement, dans le cadre des alertes de vigilance météo, notamment rouge, orange et jaune, ben ce qu'il faut faire. Et si l'inondation arrive, ce qu'il faut faire pendant l'inondation. Et ça, c'est un travail, je dirais, d'éducation de la population pour être acteur de sa propre sécurité.
Et au-delà, c'est le moment aussi de prévoir et d'anticiper avec davantage de moyens.
Alors les moyens, nous les avons. Il est évident que sur des catastrophes climatiques, on n'aura jamais assez de moyens parce qu'on va nous demander à l'instant T énormément de moyens et c'est compliqué de nous équiper avec énormément de moyens pour peut-être une intervention qui va arriver toutes les décennies. Je pense à Vaison-la-Romaine. Ce sont des crues qui sont triennales, donc c'est extrêmement compliqué. Mais on a nos sapeurs-pompiers qui maillent le terrain, qui ont du matériel, qui ont des spécialistes subaquatiques, des spécialistes d'inondation. Et donc on va être prêts. Et bien évidemment, comme les feux de forêt, on va mettre en place, à la demande des autorités nationales, des colonnes de renfort inondation. Là, c'est les colonnes de renfort feu de forêt. Ce sera des colonnes de renfort inondation avec des spécialistes, des plongeurs qui pourront intervenir. Et l'avantage avec la vigilance météo par rapport au feu de forêt, le feu de forêt, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se déclencher. Avec la vigilance météo, on sait où vont se produire et potentiellement ces événements climatiques. Et donc, on peut prépositionner des colonnes en amont de l'événement.
Merci infiniment Patrick Chavada d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes membre de la commission prévention de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous. Les feux d'artifice du 15 août avec la sécheresse actuelle, justement, on continue sur le même sujet. Ils sont nombreux à être annulés, ne serait-ce que pour aider justement les pompiers à ne pas être mobilisés sur des événements comme celui-ci. Mais certaines communes décident malgré tout de maintenir ces feux d'artifice, dans le Nord par exemple. Par exemple, la ville de Bergues a décidé de tirer ce soir ce feu à 22h au-dessus de son beffroi. Les mesures de protection seront renforcées, explique Cédric Carton, agent de la ville en charge de l'événementiel.
La préfecture nous a fait remplir une feuille nous demandant de présenter les différents dispositifs. Actuellement, les barrières sont déjà positionnées sur la D3. Les gendarmes sont au courant, les pompiers sont au courant. Des services techniques seront présents, des agents de sécurité seront présents. L'artificier a toutes les habilitations et les diplômes nécessaires. Un axe rouge, qui est donc l'axe d'arrivée des pompiers, a bien été défini avec les pompiers. Des extincteurs seront mis en place. On prend bien les choses au sérieux et on fera tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux.
Des propos recueillis par Antoine Decarne, RTL. Il est midi 40, véhicule à l'arrêt, moteur coupé. Désormais annoncé, si vous ne coupez pas le contact de votre véhicule, donc de votre voiture, vous risquez une amende de 135 €. Le maire a pour cela déterré un vieil arrêté ministériel datant des années 60. Oui, oui. Écoutez son adjoint Bertrand Masson.
Il s'agit d'abord de faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Je pense que tout le monde l'aura bien compris. L'heure de la verbalisation n'est pas encore venue. On est dans un appel au bon sens. Les gens qui parfois maintiennent leur moteur allumé ne sont pas de mauvais citoyens. Ils font juste peut-être pas assez attention ou l'habitude l'a emporté. De la même manière qu'il y a quelques semaines, il y a eu un débat sur les portes des commerces climatisés qui restaient ouvertes, ou qu'il y a eu il y a quelques mois des débats et des mesures prises contre, par exemple, le chauffage sur les terrasses l'hiver, les terrasses des cafés, l'été que nous traversons, montrent combien il y a urgence. Tout le monde doit prendre exemple, y compris dans la cour de l'Élysée. Cette mesure est en application, je pense par exemple à la Belgique ou à la Suisse. Et je dis même qu'en Suisse, il est même obligatoire d'arrêter son véhicule quand effectivement on est à un feu rouge. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, je crois que c'est une mesure de bon sens et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre.
Des propos recueillis par Dimitri Ramelot et venez nous dire si vous aussi vous pensez que c'est une question de bon sens de couper son moteur lorsqu'on est à l'arrêt. On entend vos réactions au 32-10. L'inflation n'épargne personne et surtout pas les étudiants dont le coût de la vie explose littéralement selon une enquête du syndicat UNEF. Un chiffre très parlant et concret, Alexandre de Saint-Aignan, cela représente, écoutez bien, une hausse de 35 € par mois dans le budget d'un étudiant.
Oui, la rentrée va coûter cher. Hein. Sur l'année, ça représente 428 € de plus. Tous les postes de dépenses augmentent, à commencer par les loyers. C'est plus de la moitié du budget des étudiants. Se nourrir coûte également de plus en plus cher. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des pâtes a augmenté par exemple de 15% sur un an, plus 23% pour le café. Surtout que les universitaires n'ont plus le droit au repas à 1 € qui avait été mis en place par le gouvernement dans les CROUS pendant la crise sanitaire. Le dispositif est désormais réservé exclusivement aux boursiers. L'augmentation du coût de la vie qui pèse encore plus sur les jeunes filles selon l'UNEF, avec des dépenses supplémentaires en matière de santé, avec notamment les serviettes hygiéniques ou les tampons. Les seuls tarifs qui n'ont pas augmenté, ce sont ceux des transports en commun. Plusieurs grandes villes ont récemment mis en place des prix réduits pour les étudiants, à condition évidemment qu'ils ne se déplacent pas en voiture, puisque là aussi ils n'échappent pas à la flambée des prix du carburant.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan pour RTL. Vous parliez des protections périodiques qui sont un poste de dépenses important pour les étudiantes. Eh bien, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, en Écosse, tampons et serviettes sont disponibles gratuitement. C'est grâce à une loi contre la précarité menstruelle et c'est une première dans le monde. Là aussi, nous y reviendrons dans Les auditeurs ont la parole à partir de 13h. Le 15 août, jour de l'Assomption pour les catholiques et les orthodoxes, à Lourdes, cette fête qui célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie voit des milliers de personnes affluer. Et pourtant, Valentin Larquier, les chiffres restent encore très en dessous de la fréquentation avant Covid. L'inquiétude des commerçants reste intacte.
Oui, dès qu'on quitte le sanctuaire, on se retrouve rapidement face aux nombreuses boutiques de la ville et la pandémie ne les a pas épargnées. Même si cette année, il devrait y avoir 1 600 000 pèlerins, c'est la moitié de la fréquentation d'avant Covid. Photographe, Fabienne tient le magasin de photos emblématique de Lourdes, créé en 1865.
Un pèlerinage de 700 personnes va revenir avec peut-être 200, voire moins de personnes. C'est pas comme avant. Je pense qu'il faut quand même attendre jusqu'à encore 2-3 ans pour avoir une idée de comment on va continuer les saisons ici.
Et place Monseigneur Laurence, où l'on vend traditionnel chapelet et récipient pour recueillir l'eau de la grotte, Aurore, du magasin Sainte-Thérèse, voit des pèlerins, mais ils achètent moins.
D'un point de vue financier, ça a impacté beaucoup de monde. Donc forcément, il y a beaucoup moins de sous, donc les gens sont un peu plus réticents au fait de dépenser. Et c'est très 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 compliqué, il y a beaucoup de magasins qui ont du mal à ouvrir.
Certains ont même définitivement fermé malgré les aides de l'État. Conséquence, Lourdes veut se réinventer, elle veut que le pèlerin devienne un touriste, ce qui n'est pas totalement du goût du sanctuaire.
Merci beaucoup Valentin Larquier en direct de Lourdes pour RTL. En Afghanistan, le retour des talibans, c'était il y a un an, jour pour jour. On y revient dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Les talibans célèbrent donc aujourd'hui le premier anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan. Ce matin, ça a été tout près d'un lieu très symbolique, l'ancienne ambassade américaine. 15 août 2021, 15 août 2022,
changement radical avec la première cible des talibans. Les femmes, les quelques droits qu'elles avaient obtenus se sont volatilisés. Marc Le Mans, vous êtes notre correspondant sur place. Certaines continuent à se battre comme elles le peuvent.
Accès limité au marché du travail, discrimination quotidienne, restrictions à leur liberté de mouvement, suspension de l'éducation. En Afghanistan, les droits des femmes ont véritablement fait un bond en arrière de 20 ans. Margalai Fakirzai est une activiste afghane de 45 ans. Selon elle, la seule solution est que les pays étrangers fassent pression sur les talibans pour leur arracher des concessions.
Nous demandons à la communauté internationale d'user de son autorité sur les talibans. Nous sommes certaines qu'elle a ce pouvoir. Il faut que les pays étrangers les pressent à accorder aux femmes leurs droits, comme étudier, travailler et participer aux sphères culturelles et politiques. Nous demandons aimablement à la communauté internationale, tant qu'ils ne nous donnent pas de droits, ne reconnaissez pas leur régime.
La vie de Margalai Fakirzai a changé du jour au lendemain quand les talibans sont entrés dans le Kaboul il y a un an. Aujourd'hui, cette ancienne fonctionnaire n'ose plus se déplacer à l'extérieur sans un mahram, c'est-à-dire un chaperon. Il s'agit de son fils de 14 ans.
Le reportage de Marc Le Mans, le correspondant de RTL en Afghanistan, et nous sommes avec Amida Aman. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invitée sur RTL. Vous êtes journaliste, vous partagez votre vie entre Kaboul et Paris, et vous avez fondé une radio, Radio Begum, un média pour les femmes afghanes. On l'a entendu dans ce reportage, les droits ont régressé pour ne pas dire disparu.
Tout à fait, tout à fait. Il y a un an, jour pour jour, le monde s'écroulait, le monde des Afghans s'effondrait, en particulier ceux de, pour les citadins, les femmes et les jeunes qui ont tout perdu cette année. Et aujourd'hui, on célèbre ce triste anniversaire, effectivement.
Et ce que l'on a entendu également, c'est que la résistance se met en place comme elle le peut dans la clandestinité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que la radio permet de le faire?
Tout à fait, nous essayons, nous continuons à résister, nous continuons à nous battre très rapidement. Après le 15 août dernier, il y a un an exactement, c'était la panique générale au sein de mon équipe, en particulier des jeunes femmes qui travaillaient à Radio Begum. Leur monde s'écroulait, elles avaient très très peur. Il a fallu un mois avant qu'elles reprennent leurs esprits et qu'on redemande des autorisations pour reprendre le travail. Nous les avons obtenu, ces autorisations, et nous continuons d'émettre. Un an plus tard, nous continuons toujours à émettre. Donc, ces jeunes femmes, ces animatrices, ces journalistes continuent à venir au travail, continuent à braver un peu tous les interdits et la peur, et elles sont le seul soutien à leur famille. Et surtout, elles sont d'un courage extrême parce qu'elles continuent à couvrir et à parler des problèmes des femmes. Nous essayons de ne pas aborder de... Il n'y a pas de politique sur Radio Begum pour nous éviter justement des problèmes. Mais simplement, nous évoquons, on continue la place des femmes dans la société, l'importance de l'éducation et surtout l'importance du travail pour subvenir à ses besoins, surtout en ces temps très difficiles.
Oui, symbole d'encouragement immense, vous le disiez, concernant les femmes de votre équipe. On l'entendait ce matin sur RTL dans un autre reportage de Marc Le Mans. Un professeur de musique disait, voilà, moi je continue à donner des cours en cachette, même si la musique est interdite par les talibans. Bon, pour vous, ça se passe comment? Est-ce que vous bravez aussi certains interdits dans le contenu?
En fait, nous bravons un peu tous les interdits. C'est-à-dire, nous donnons des cours radiophoniques. Nous produisons des cours radiophoniques quotidiens et nous diffusons 3 heures. Nous consacrons 6 heures d'antenne, 3 heures en dari, 3 heures en pashto, donc dans les deux langues nationales. Nous diffusons des cours que nous enregistrons dans nos studios et que nous diffusons à travers la radio. À la différence des écoles clandestines, nous avons l'autorisation de le faire parce que nous avons l'autorisation d'émettre et les autorités sont au courant de nos programmes, mais pour l'instant, nous pouvons, parce que nous ne faisons pas venir forcément, enfin, nous enregistrons avec des jeunes filles dans la classe, mais ça, apparemment, ça passe encore. Et le fait nous consacrons ces heures d'antenne à l'éducation parce que c'est de la cinquième jusqu'à la terminale, justement pour toutes ces filles qui sont obligées de rester à la maison.
Radio Begum, une autre façon de résister en tout tout cas. Merci infiniment, Amida Hamann, d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous partagez votre vie entre Kaboul et Paris. C'est la première réaction officielle de Téhéran depuis l'attaque au couteau qui a visé Salman Rushdie vendredi. L'Iran nie un quelconque lien avec l'agresseur et une nouvelle fois explique que l'auteur des versets sataniques ne peut s'en prendre qu'à lui-même après avoir, je cite, insulté les choses sacrées de l'islam et franchi des lignes rouges. Salman Rushdie, je vous le rappelle, a été gravement blessé mais va un peu mieux selon ses proches. À Londres, les débats viennent de débuter au procès de Benjamin Mendy. Le Français champion du monde de football est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour RTL. Marie, après 3 journées consacrées aux questions techniques, ça y est, les juges se penchent désormais sur le fond de l'affaire.
Oui, le procès vient de commencer pour de bon. Il y a 50 minutes, Benjamin Mendy est arrivé au tribunal pour ce premier jour d'audience véritable, habillé en costume cravate comme la semaine dernière. C'est l'accusation qui a ouvert la procédure en détaillant au jury ce qu'elle reproche au footballeur. Alors le juge a bien précisé qu'il ne s'agissait pas encore de présenter les preuves pour appuyer l'argumentaire. L'équivalent anglais du procureur, Timothy Cray, donne ici son point de vue à charge. Contre le footballeur, cette présentation, cette ouverture, comme elle est appelée en Angleterre, devrait durer toute la journée jusqu'à demain. L'accusation a précisé que ça n'allait pas être un procès ennuyeux, bien au contraire. Il a aussi dit qu'il commence durant la vague de chaleur, mais qu'il ne devrait pas se terminer avant le froid mordant du mois de novembre. Benjamin Mendy est jugé aux côtés de Luis Sala Maturi, qui, selon l'accusation, aurait procuré certaines de ses victimes présumées au footballeur. La défense aura droit à la parole quand l'accusation aura terminé sa présentation.
Marie Billon, en direct de Londres pour RTL. RTL, où il est midi 52. L'abandon de Kevin Mayer ce matin au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. Dès la première épreuve, le 100 mètres, il a coupé sa course, ressentant une nouvelle douleur au grand adducteur. Il rêvait d'un doublé 3 semaines après son sacre de champion du monde, mais la prudence l'a emporté. Écoutez-le.
C'était un objectif tellement incroyable de réussir à faire 2 médailles en 2 championnats en 3 semaines que je voulais me donner une chance d'y arriver. Peu importe mes sensations, peu importe quoi, je voulais être là le jour J sur la piste et voir comment ça répondait. Mais aux 50 mètres, quand je commence à sentir que ça tend de plus en plus, je ne sais pas jusqu'où ça va tenir. Et je veux surtout pas partir en repos avec une blessure. Je veux surtout pas avoir une dette pour l'année prochaine. Je suis vraiment désolé à tous ceux qui croyaient en cet exploit. J'y croyais aussi. Je me suis donné l'opportunité, mais ça s'appelle pas un exploit pour rien. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, ça fait du bien d'être en vacances parce que cette saison n'a pas été facile. Et terminer avec un titre mondial, ça fait quand même déjà plaisir. Ça va déjà mieux, là.
Et Kevin Mayer, interrogé par nos confrères de France Télévisions. Une bouderie qui fait beaucoup réagir depuis samedi pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes. On attendait un Mbappé souriant, débordant d'énergie. Et bien, malgré un but, l'attaquant star a affiché un comportement assez surprenant. En tout cas, qui interroge et surtout qui contraste avec le bonheur de Neymar. Y aurait-il déjà un souci dans le vestiaire parisien, Eric Silvestro ?
En tout cas, une guerre d'ego surdimensionnée, Agnès, et qui prend de l'ampleur après les chamboulements de l'intersaison. Je résume, en prolongeant à Paris, Kylian Mbappé est devenu la star numéro 1 du Paris Saint-Germain. C'est ainsi qu'il a été désigné pour tirer les pénaltys, par exemple. Mais samedi, il a manqué sa tentative, Neymar, lui, l'a réussi. Et après le match, le Brésilien n'a pas manqué de liker 2 postes, s'offusquant qu'Mbappé soit prioritaire pour cet exercice. Rajouter Lionel Messi, c'est 7 ballons d'or et un esprit revanchard après une première saison mitigée. Et vous obtenez une bombe à retardement que le duo Galtier-Campos doit désamorcer au plus vite en interne en se montrant ferme avec les intéressés. Une réunion doit d'ailleurs avoir lieu cette semaine. Mais si tout cela était finalement bénéfique, personne ne doute qu'Mbappé va réagir, il le fait toujours. Neymar, piqué dans son orgueil et menacé d'exil, a enfin retrouvé son génie balle au pied et la perspective de la Coupe du Monde transcende Lionel Messi. Finalement, il faut peut-être juste une grande porte bien large dans le vestiaire.
Merci beaucoup Eric Silvestro. Restez avec nous parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous appelle sur ce sujet. Il va y avoir des choses à dire à partir de 13h. Conduire un train à vapeur, Mourad Jabari en rêvait, bien la rédaction l'a fait. RTL en immersion, c'est dans un instant.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL en immersion.
Vous le savez, cet été, chaque jour, un journaliste de la rédaction teste un nouveau métier. Et aujourd'hui, direction la baie de Somme avec vous, Mourad Jabari. Bonjour.
Bonjour.
Ce que vous nous proposez, Mourad, est assez rare. Vous avez conduit le petit train touristique de la baie de Somme. Chaque année, il transporte jusqu'à 100 000 touristes à travers cette réserve naturelle entre les prés salés, les moutons et autres cigognes. Avec une petite particularité, Mourad, c'est presque unique en France, ce train est à vapeur.
Oui, cette locomotive est classée au monument historique. Elle date de 1920. La voir, c'est quasiment un voyage dans le temps. L'odeur du charbon, de la graisse, la chaleur et la suie qui recouvrent le visage, les mains et la combinaison bleue de Jean-Michel et Enzo. Mais avant d'entendre le ronflement du train, il faut allumer la locomotive 4 heures avant le premier voyage, la faire monter en température, et ça, c'est Enzo qui s'en charge.
T'as quel âge ?
J'ai 15 ans. Alors je suis apprenti, donc c'est-à-dire que je vais apprendre à mettre du charbon dans le foyer. Donc là, je l'allume avec du bois, puis un peu de papier pour que ça démarre bien. Le temps que la pression monte, il faut à peu près 4 heures.
Vu qu'on est en retard, je vais l'allumer directement au gasoil.
Comme on met dans les voitures diesel.
Faut pas reproduire ça quand on allume un barbecue, on est d'accord ?
Non, pas du tout. Là, on le fait parce que on le peut, c'est fermé. De toute façon, il faut qu'on mette une veste, on est bien protégé, donc normalement, il y a très peu de risques.
Il connaît bien son métier, l'apprenti, hein ?
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, le briquet, on va mettre le chiffon au milieu du feu, et puis ça va monter tranquillement. On reviendra dans 5 minutes pour voir comment ça a démarré.
De toute façon, que la porte du foyer s'appelle le gueulard.
Alors vous êtes le mécanicien.
Alors moi, mon rôle, c'est d'abord de vérifier l'état mécanique de la locomotive, vérifier si, par exemple, les freins sont en bon état. Ensuite, mon rôle, c'est de faire un certain nombre de graissages, et puis ensuite de superviser la mise en chauffe, puisque c'est quand même moi le responsable. On ira faire le plein de charbon, bien sûr, et puis on reviendra ici et on fera le nettoyage de la machine, et puis bah, après, la machine sera prête à partir.
C'est un travail fastidieux, on l'entend, nécessaire, mais après ces 4 heures d'allumage, de graissage, de préparation, on peut enfin partir. 30 km de voyage sur les rails entre Saint-Valery et le Crotoy à travers la baie de Somme.
Et oui, sur le quai du port de Saint-Valery, plus de 400 touristes voyageurs montent à bord de la locomotive. De mon côté, je ne monte pas dans le wagon, mais je reste aux côtés d'Enzo et de Jean-Michel dans la cabine de ce train de 33 tonnes.
Alors là, je desserre le frein. Frein à main, c'est bon, parce que c'est aussi un frein à main, bien sûr. Et on y va. Voilà, j'ouvre le régulateur. En fait, j'envoie la vapeur dans les cylindres.
Et là, on avance.
Alors, j'ai mis ma marche à fond, là, vous voyez. Ah, là, il y a le zéro, c'est le point mort. Marche à fond en arrière, marche à fond en avant.
4709, on est prêt. 4709, c'est pas.
Et donc, toi, Enzo, tu vas alimenter en charbon pendant le voyage ?
C'est ça. Et on va alimenter l'eau pour avoir toujours un niveau d'eau correct pour faire de la vapeur.
Et on voit que vous êtes une attraction, il y a toujours les passants qui s'arrêtent pour vous prendre en photo.
Oui, et parfois ils sont un peu trop près de la voie ferrée d'ailleurs pour prendre la photo du siècle, et c'est un peu dangereux parfois.
On va rouler à combien de kilomètres heure là ?
25, 30 maximum.
Et vous là, c'est pas du trajet ?
Ah non, jamais, c'est différent d'une heure à l'autre. C'est la baie de Somme quand même. Là aujourd'hui c'est très brumeux, parfois il y a des lumières magnifiques, et puis aussi il y a beaucoup d'oiseaux.
C'est un parcours en pleine nature.
C'est dans une zone inaccessible en voiture, il y a que le train qui y passe. Alors, vous voyez là-bas au loin, là-bas c'est le Crotoy, de l'autre côté Saint-Valery, et au fond dans la brume le Wourdel. Il faudrait pas régler le graisseur à condensation parce qu'il fait n'importe quoi. Hein. Allez-y, s'il vous plaît.
Ah, c'est
allez-y.
À mon tour là ?
À votre tour, allez-y, tout de suite.
Donc je allez-y. Tire sur la manivelle. Voilà. C'est génial.
Après, il faut savoir reculer. Mais... Là, ça décoiffe. Hein. Quand, comment les enfants, quand ils représentent un train, c'est toujours un train à vapeur. Même s'ils n'en ont jamais vu en vérité. Hein. Tu vois, la première fois qu'ils en voient, c'est ici. Quoi.
Ça fait combien de temps que vous conduisez ce petit train ?
37 ans. On s'en lasse pas. Hein. J'avais trois passions dans la vie, les trains, l'histoire, la géographie. L'histoire et la géographie, j'en ai fait mon métier, et les trains, ma passion. Voilà.
Génial, sacrée balade à travers la baie de Somme, ça te donne envie. Mais dites-moi Mourad, est-ce que vous seriez prêt à devenir conducteur de train à vapeur ?
Eh bien, vous venez de l'entendre, Jean-Michel conduit depuis 37 ans ses locomotives à vapeur, mais uniquement sur son temps libre. Il est aujourd'hui prof d'histoire géo à la retraite. Enzo, l'apprenti, se forme pendant ses vacances. Ils sont réunis par la passion des trains, comme les 500 bénévoles de l'association des chemins de fer de la Somme. Mais certains sont professionnels, ils font ça toute l'année, préparent la locomotive pendant 4 heures, conduisent ensuite le train dans le froid ou lorsqu'il fait 50 degrés en cabine. Mais je vous avoue que c'est quand même extraordinaire de manier, de faire avancer cette vieille machine de 33 tonnes. Mais pour ma part, pas tous les jours, parce que c'est quand même très, très éprouvant.
Et surtout, de faire siffler le train, on a entendu votre joie. Merci Mourad Djabari, à réécouter bien évidemment sur RTL.fr et l'appli RTL. Dans un instant, les auditeurs.
RTL Midi.